Ben, le complexe de Toulon, c'est une chose que j'ai un peu inventée pour justifier à la fois le titre et le nom du personnage, qui s'appelle Charles Toulon. Mais je ne sais pas si c'est bien de dire exactement en quoi consiste ce complexe, parce que c'est mieux de le découvrir dans le film.
Oui.
Disons que c'est un complexe... Oui, c'est un complexe que Charles Toulon a identifié dans le monde moderne et... voilà, qui a à voir un petit peu avec les médias et avec la paranoïa.
Mais alors, c'est vous qui le révélez dans le film, ce complexe de Toulon?
Ah oui, mais moi...
C'est le seul moment...
Je fais un passant, quoi. Quelqu'un, un habitué du café, comme un anonyme, qui...
Oui.
Comme pour prouver que ce complexe est connu par des gens dans la rue, comme ça, qu'il est un petit peu connu.
Donc
il est exposé une première fois par un personnage important du film, et puis un peu plus tard dans le film, eh bien, c'est moi qui le révèle dans un café où les gens se retrouvent.
Voilà. Oui, sur un.
C'est pas un café, c'est un bar à vin.
Oui, c'est un lieu quand même assez intime où les gens se connaissent, où les gens se retrouvent.
Oui, mais ce qui fait ça, c'est que c'est un lieu où il n'y a pas de fenêtre.
Ouais, un lieu clos.
C'est un lieu clos, donc il est éclairé ou avec des bougies ou avec de l'électricité, mais c'est un lieu où on dirait que la lumière du jour ne pénètre pas. Voilà. C'est un lieu où on se réunit le soir, plutôt.
Alors, voilà. Charles Toulon, c'est un des personnages du film, donc en fait, qui va donner le nom, le titre du film, vient de ce complexe mis en évidence par Charles Toulon, qui est interprété par Howard Vernon. Charles Toulon, c'est quelqu'un qui, me semble-t-il, n'est pas tellement... Mais pas en retraite du monde, mais il me semble qu'il est un peu non réconcilié avec le monde.
Oui, en fait, oui, puisque il a accompli une première moitié de sa vie où il avait une certaine vocation qui était d'écrire, mais de ne pas publier. Et puis, au milieu de la vie, il a décidé d'abandonner l'écriture pour devenir acteur et pour jouer. Pour rêver de jouer sur des scènes des textes de grandes pièces en langue originale, notamment dans le film en espagnol et en anglais, c'est-à-dire Calderón et Shakespeare. Et en fait, dans le film, on le voit dire ces textes sur une scène ou dans sa loge, mais il n'y a pas de public. Voilà.
Alors, c'est un personnage à la fois un peu mystérieux qui parcourt comme ça tout le film, mais le film fonctionne beaucoup avec des parallélismes, je veux dire des simultanéités de personnages. C'est-à-dire, il y a le personnage de Charles Toulon et son complexe, et puis le personnage principal, c'est plutôt Chris, avec son frère Freddy, et la maîtresse de Chris, Marie. Mais c'est surtout Chris, qui est joué par Jean-Christophe Bouvet, qui est un personnage... moi, je trouve que Bouvet est un acteur merveilleux. Il a une présence corporelle incroyable. Et cette présence corporelle révèle quelque chose de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et qui, me semble-t-il, est un peu pas tragique, mais un peu à côté. On dirait que c'est quelqu'un qui est là sans être là complètement. Je me trompe ou pas?
Mais beaucoup de gens sont là sans être là.
Oui, mais la première fois qu'on le voit, par exemple, c'est tout à fait au début du film.
Il est là, au début du film, il est là comme témoin, il attend que ça se passe.
Voilà.
Voilà.
Parce qu'il y a une discussion un peu passionnée autour de la direction d'orchestre. Et Chris...
Passionnée de la part de quelqu'un. En fait, c'est des... Je crois que tous les personnages du film sont des solitaires.
Oui.
Ils sont chacun dans leur solitude,
oui,
mais ni plus ni moins que dans les vieux films de Todd Browning, par exemple.
Oui. On a quand même le sentiment que les personnages qui parlent de la direction d'orchestre sont quand même...
C'est un seul,
oui,
puisque
un seul,
Chris, il n'a pas d'avis, il raconte des bêtises, il s'amuse, il n'est pas sérieux, alors que l'autre en face de lui est extrêmement sérieux, puisqu'il vient là pour apprendre à faire de la direction d'orchestre. Mais là, j'y pense tout d'un coup. Il fait de la direction d'orchestre dans le vide, comme le Charles Toulon avec ses textes.
Oui.
Ça, j'y avais pas pensé, j'y pense maintenant.
Donc, ce sont des personnages qui
Mais sont... le musicien qui lui donne les conseils pour diriger, lui, est un vrai musicien, en dehors du film et dans le film aussi, puisqu'il joue au piano après.
Mais ce qui, d'emblée, moi, je pense que j'ai l'impression que la discussion, enfin, ce qui est dit à propos de la musique renvoie un peu à ce complexe de Toulon, c'est-à-dire peut-être quelque chose qui a à voir avec le relatif, parce qu'il y a des gens qui affirment des choses, et puis on a l'impression que dans ces affirmations, votre point de vue est peut-être de relativiser les choses par rapport aux affirmations.
Oui, toujours, ça c'est une tendance que j'ai, évidemment. Le discours sur la musique, c'est une forme de folie passionnée, quoi. Mais moi, je l'ai fait avec des choses de moi mais que j'ai mise à distance d'une certaine façon.
Il me semble qu'il y a un travail de mise à distance quand même, parce que pour les auditeurs qui ne le savent pas forcément, vous êtes un oiseau rare, quoi, Jean-Claude Biette, c'est le cas de le dire. Enfin, en tout cas, du point de vue de la musique classique, vous connaissez bien la musique classique. D'ailleurs, vous arrive d'en parler sur d'autres fréquences. Et là, j'ai l'impression que dans pas mal de vos films, d'ailleurs, la musique classique comme ça, et il en est question. Mais il y a une espèce, pas d'autodérision, mais de mise à distance, de tenue un peu. Vous vous en amusez dans ce que les personnages en disent ou ce que vous leur faites dire.
Oui, parce que les passions artistiques, je les regarde toujours avec distance.
Oui, c'est ça. Vous avez l'habitude d'en voir beaucoup autour de vous ?
Je sais pas. Oui. J'en sais rien.
Mais c'est ce que je me suis dit.
Je pense que ça, c'est un peu le contre-pied de la culture.
Oui. Voilà.
Oui. C'est-à-dire le genre Télérama et tout ça.
C'est un petit peu un coup de pied dans la fourmilière.
Voilà, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec l'opposition que Godard établit entre art et culture, parce que disons qu'il y a, je pense qu'il y a une façon de pratiquer la culture réellement, qui est un vrai travail, qui est une recherche, donc c'est difficile d'opposer absolument l'art et la culture, mais quand même il y a une consommation culturelle. Qui est quand même quelque chose d'horrible, parce que c'est tout le monde qui s'accorde sur des valeurs comme ça, dont au fond tout le monde s'en fout, mais tout le monde va voir Beaumarchais, quoi, parce que c'est la culture française.
Bien. À propos de culture, on va entendre un petit extrait de la suite pour l'opéra de Katsu. Et c'est Klemperer qui dirige.
C'est Otto Klemperer, oui. Je crois que c'est le premier enregistrement fait en 30 ou 31 avec un orchestre de Berlin.
Quand Klemperer jouait encore merveilleusement bien. On écoute.
Thank you.
Voilà, donc c'était un extrait de la suite de l'opéra de Katsu, direction Otto Klemperer. J'aimerais qu'on... parce que on parlait d'art et de culture, il y a un mot qui est très à la mode, là, en ce moment, c'est le virtuel, qui va nous arriver comme ça. Il y a quand même quelque chose de dur, me semble-t-il, que le personnage de Chris dit à sa maîtresse, il lui dit « tu es une image virtuelle, quoi ». Je trouve ça très dur.
Oui, bien sûr.
Alors, quel est votre point de vue en tant que cinéaste, surtout que tel que vous avez construit le personnage de Marie, me semble-t-il, elle n'est pas virtuelle.
Pas du tout. Mais j'ai essayé quand même de faire de Chris un personnage odieux.
Mais il n'est pas très sympathique à ce moment-là.
Oh, mais à plein d'endroits, il n'est pas sympathique. Mais en même temps, je voulais qu'il ait une sorte de truculence comme ça, de quelqu'un qui... Déjà, c'est quelqu'un qui, par rapport à deux autres personnages du film, n'est pas dans un registre de la vocation.
Non.
Donc c'est quelqu'un qui s'en fout, en fait. Il va là où ça l'arrange. Il gagne sa vie comme il peut. C'est quelqu'un qui n'a pas de morale particulière, quoi. Il est...
J'ai pas l'impression.
Il est dans les plaisirs du moment, voilà. De l'instant. Il suit ses envies. C'est quelqu'un de très égoïste.
Il suit le hasard, me semble-t-il.
Il suit le hasard, oui. Mm-hmm. Oui. Il suit le hasard. Et donc, il est amené à employer des mots d'aujourd'hui, quoi.
Parce que
il ramasse toutes les idées culturelles qui sont dans l'air du temps, comme ça, et puis il les ressort.
Oui, oui. Voilà. Alors, il est à la fois, bon, vous dites odieux, moi je ne l'ai pas ressenti aussi odieux que ça.
Odieux, disons que c'est pas. Pour un personnage principal, qui par ailleurs, par exemple, ne commet pas de crime.
Non.
Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas. Parce que dans beaucoup de films, il y a des personnages qui sont odieux, mais ils vont jusqu'au bout, ils sont criminels. Mais lui, il est simplement un individu ordinaire, voilà. Mais simplement, il estime qu'il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, et donc il rattrape au vol les idées qui sont dans l'air du temps.
Je trouve surtout qu'il n'a pas d'investissement.
Quand il dit « maintenant on est au 21e siècle », bon, il dit à Marie « tu n'es qu'une image virtuelle ». Et bon, voilà, c'est un mot très fort parce qu'on n'en a pas encore mesuré toute la portée.
Toute la substantifique moelle, dit-on.
C'est ça, c'est un mot qui fait encore peur. Hein. Ouais, ouais. Mais dans 10 ans, ça passera comme une lettre à la poste dans le film. On dira, oui, c'est vrai, c'était peut-être le début du virtuel. Ouais.
Enfin, j'aimerais pas qu'un homme me dise que je ne suis qu'une image virtuelle. Je crois que là, très concrètement...
Mais ça n'a pas l'air de l'entamer beaucoup, le personnage de Marie.
Non, mais je trouve que
Marie... Elle le prend comme il est.
Oui, elle le prend comme il est, mais Marie est touchante parce que je trouve qu'elle a une implication, un investissement dans la relation amoureuse qui, justement, est assez, assez docile, en fait, assez entier, comme ça. Et par contre, le personnage de Chris, donc, qui est magnifiquement incarné par Jean-Christophe Bouvet, lui est quand même très détaché, en fait. Ça, il est à l'extérieur.
Oui, il a quelque chose de sarcastique.
Sarcastique.
Oui, oui, oui.
Je veux dire, c'est dur. Hein. Et effectivement,
oui, mais c'est dur, mais la réalité est dure, enfin, quand même.
Et alors, il va...
Moi, j'en ai assez de voir des films où les gens sont idéalisés dans tous les sens, soit dans le trop cynique, qui est irréel aussi, soit dans le mièvre, soit...
Alors, il y a une manière dont vous distancez un peu tout ça, dont vous faites travailler les personnages, c'est le dialogue, enfin, la manière dont vous écrivez vos dialogues. Il y a des choses très écrites dans vos dialogues. Et j'aimerais savoir, parce qu'ils sont assez drôles, en fait. Moi, je ris, j'ai une espèce de complicité ludique, comme ça, dans vos films. Loin de Manhattan, en tout cas, et dans celui-là, qui d'ailleurs, je trouve que Loin de Manhattan et le complexe de Toulon ouvrent peut-être des portes possibles, des champs possibles, au genre comédie, qui est un genre sur lequel on n'a pas trop renouvelé la forme. Alors, petite question, première question d'abord, c'est comment vous écrivez vos dialogues? Très écrit à l'avance?
Oui, mais c'est très écrit à l'avance, mais en le donnant aux acteurs, dès qu'ils me font une observation sur un truc qui colle pas, j'accepte ce qu'ils me demandent comme changement.
Oui.
Ce sur quoi je ne bouge pas, c'est sur le choix des mots.
D'accord.
Le choix des mots ne bouge pas. Mais, par exemple, on peut permuter une phrase avec une autre, parce qu'il y a la logique du langage qui, à ce moment-là, je me rends compte que l'acteur a besoin d'avoir sa propre logique, parce que ça lui convient mieux. Donc, j'accepte qu'il change l'ordre des phrases. Mais, sur le choix des mots, je sais toujours bien que ça doit être ce mot-là et pas un autre.
Parce que ça me semble très précis, très rigoureux, très écrit. C'est-à-dire que l'humour que vous pratiquez, qui est assez corrosif en fait, c'est un peu au scalpel que c'est écrit. Avec précision en tout cas.
Ah oui, parce que pour moi la précision, c'est ce qu'on disait autrefois dans une discussion avec Danet. J'en étais arrivé à dire que la précision, c'est le contraire de la vulgarité, quoi.
Oui, probablement.
La précision, c'est une sorte de... C'est ce qu'on doit à l'autre.
Oui, c'est la moindre des choses.
Voilà, c'est la moindre des choses.
Oui, je trouve que c'est la moindre des choses.
Dans le langage, je pense qu'il faut être précis, parce que... il faut que... pour entrer en... les malentendus viennent toujours d'un manque de précision, très souvent.
Tout à fait. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que dans les films, il y a une attitude éthique, il y a quelque chose de votre part qui est assez fort, en fait, dans cette manière de travailler l'écriture, comme ça. C'est un point de vue sur le monde aussi qui passe, là.
Ah ben parce que pour moi, le langage... les deux choses qui sont essentielles, c'est le langage et les corps. Voilà. Et bon, ça passe par la voix et ça passe par les gestes. Mais le langage... oui, le langage...
On reviendra sur le langage et les corps, parce que je trouve qu'il y a des pistes ouvertes sur le théâtre et l'acteur. Bon. Mais la manière dont vous voyez les films que vous avez faits, Loin de Manhattan, et en tout cas le complexe de Toulon, sont des comédies. Et il me semble qu'il y a des ouvertures possibles, là, de renouvellement de la comédie. Je me trompe ou pas ?
Ah ben j'en sais rien. Moi, j'ai envie de... je constate, là, en revoyant mes films récemment, que mes deux premiers films sont plutôt des comédies et sont perçus comme des films où on rit beaucoup.
Oui.
Le théâtre des matières est loin de Manhattan. Ouais. Et après, dans les années 80, je suis passé à des films beaucoup plus graves, comme Le Champignon des Carpates et Chasse gardée, qui sont des films plus sombres, où il y a assez peu d'éléments de comédie. Sinon que j'en mets de temps en temps parce que je trouve que c'est trop sérieux et que j'ai besoin de m'y retrouver avec un peu de comédie. Mais là, le complexe de Toulon, j'ai voulu renouer avec ce que j'avais fait dans Loin de Manhattan, qui a été tourné en 80. Donc, Loin de Manhattan, fin du giscardisme.
Oui.
Le complexe de Toulon, fin du mitterrandisme.
Oui.
Voilà.
Ah, ça clôt des périodes.
Ouais, ça clôt des périodes, parce que je l'ai tourné entre 93 et 94, le complexe de Toulon. Et voilà, c'est des fins de règne.
Ce sont des films de fin de règne.
Oui, ça s'est trouvé comme ça. J'ai pas eu l'intention spécialement de faire ça.
Oui, je crois pas, oui.
Mais bon...
c'est un constat.
Oui.
C'est vrai que ça ramasse pas mal l'air du temps. Et on va y venir, parce que Chris, en fait, il est assez désœuvré. Bon, il est un peu... Il suit un peu le hasard, mais...
Il n'a pas de but dans la vie.
Il n'a pas de but. Mais ça, c'est pathétique en soi, je trouve. De ce point de vue-là, le personnage est pathétique. C'est pour ça que je ne le trouve pas odieux. Et il n'a pas de but en soi, et il va là où le hasard le conduit. Alors, effectivement, le premier des hasards, c'est comme il cherche un travail, c'est Paris, boum, boum, paf, il rentre, une porte... Sans toi, je meurs, très dans l'air du temps en ce moment, c'est une affiche. Et puis, on voit derrière un bureau, c'est Dominique Rabourdin en l'occurrence qui joue le personnage, donc il discute d'une petite annonce. Alors là, on a des choses assez drôles d'ailleurs. Il y a beaucoup de langues dans le film, il y a quelque chose en chinois, là. Vous pourriez m'éclairer là-dessus, sur cette petite séquence.
Ben, c'est-à-dire que le personnage parle de l'époque où il était à Vincennes, à l'université de Vincennes, qui n'existe plus depuis pas mal de temps, qui a été créée juste après mai 68, mmh. et où, bon, avec la présence des mouvements maoïstes, eh bien, beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants apprenaient le chinois. Et ça a été le cas de Jean-Christophe Bouvet. Il a appris le chinois à ce moment-là à Vincennes. Mm-hmm. Donc, je lui ai fait parler chinois dans le film. Et il se souvient de pas mal de phrases.
Oui, c'est très drôle. Mm. Je ne soupçonnais pas Jean-Christophe Bouvet d'avoir appris le chinois. Sur le moment, j'ai cru que c'était une improvisation.
Non, c'est du vrai chinois.
C'est génial.
C'est du vrai chinois. Ouais. Il dit Zong Washe, Washe, Swashe, Me, Pushe, Ni Hao. Voilà, c'est.
Je suis obligée de. de vous faire confiance.
Et puis.
Et alors Rabourdin lui répond.
Lui répond en chinois, oui.
Chinois. Ça, c'est complètement surréaliste, je trouve, cette séquence. Tout d'un coup, alors là, c'est quasiment du burlesque. C'est quasiment les ressorts du burlesque, là.
Mais parce que c'est tellement énorme, mais c'est de la réalité. J'avais noté des phrases de chinois, comme ça, sans destination particulière, et puis je les ai attribués au personnage de Rabourdin, qui répond donc à Jean-Christophe.
Alors il me semble que là, il y a des pistes nouvelles, des pistes pour la comédie, parce que c'est quelque chose qui nous surprend, on ne s'y attend pas. Dans le film, il y a souvent des choses comme ça qui arrivent.
Oui, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses auxquelles on s'attend.
Absolument pas. Et c'est justement ces choses-là qui, je trouve, font les ressorts parfois de ce qui est drôle. Il n'y a pas que le comique des mots. Il y a aussi, dans les situations, les choses qui surgissent et qui sont étonnantes, parce qu'on s'y attend tellement peu que ça fait rire. C'est en tête qu'on soit un peu complice avec ce hasard un peu burlesque, en fait. Et je trouve que c'est intéressant. Alors, on va avancer sur le personnage, donc... Il ne sait pas trop quoi faire. Et il va devenir acteur. Alors, pourquoi acteur ? C'est quand même plusieurs films où le théâtre est important dans vos films. Il y a le théâtre des matières.
Oui.
Il y a toujours des drôles de théâtre, d'ailleurs, qu'on y joue.
Ah ben non, le théâtre des matières, on jouait une pièce de Schiller.
Oui.
Mais enfin, ce qu'on envoyait, effectivement, était assez peu... Il y avait des tableaux muets. Il y avait des tableaux muets qui étaient une idée du metteur en scène... fictionnel, quoi, oui, qui oui. était de rajouter des tableaux historiques muets. Et puis, jouer du Bataille.
Oui, c'est ça, moi je
enfin,
me
rappelle bon, surtout. Il y a aussi des théâtres vrais qui jouent du Bataille, donc ça n'a pas... c'est pas exceptionnel. Et après, ben, dans le Champignon des Carpates, il y a aussi un metteur en scène de théâtre qui fait jouer du Shakespeare en français. Dans Chasse gardée, il y a aussi du théâtre. Mmh. Ça, c'est du Racine. Oui, il y a toujours du théâtre parce que, je sais pas, j'ai pris goût à mettre du théâtre dans les films. Ça fait un espace supplémentaire pour que les acteurs puissent faire quelque chose, quoi.
Alors, on va y revenir sur ce qu'ils font dans ce théâtre. On écoute un peu la suite de l'opéra de Katsu.
Thank you.
Otto Klemperer.
Otto Klemperer, oui. Toujours. À Berlin en 1930 ou 31, en train de diriger l'opéra de Katsu, la suite d'orchestre.
Alors, on va revenir à ce théâtre que l'on voit dans ce film. Là, je me disais quand même, dans le théâtre des matières, il y avait le théâtre des matières, mais vraiment les matières organiques, les matières du corps, les matières
du corps humain et du cosmos.
Et du cosmos. Et du cosmos. Voilà. Et alors, c'est assez curieux, quoi. Donc, c'était avec des débats théoriques autour de ce théâtre.
Oh, il n'y avait pas de débat. Il y avait le metteur en scène qui avait sa théorie, qui l'exposait à une journaliste venue l'interviewer.
C'est ça. Voilà. Et puis, il y avait la mise en pratique, la pratique de cette forme de théâtre-là. Alors, dans le complexe de Toulon, on a d'ailleurs deux autres formes de théâtre, on pourrait dire, parce qu'il y a le théâtre que pratique Charles Toulon.
Ouais.
Et il y a le théâtre que va pratiquer Jean-Christophe Bouvier en trouvant du travail.
Ouais. Ces deux théâtres, ils n'ont aucune relation l'un avec l'autre. Simplement que l'un est un théâtre de texte, donc un théâtre de parole, au sens pasolinien du terme. Et puis l'autre est un théâtre de gestes, de gestuel même. Qui est une pièce de théâtre qui a été réellement montée par Philippe Chemin, qui joue dans le film le rôle d'un metteur en scène de théâtre fictif et inventé, mais qui joue cette pièce de théâtre qu'il a effectivement montée dans le lieu où je l'ai filmée, et avec Jean-Christophe Bouvet comme acteur principal.
Alors, Bouvet qui est encore une fois là absolument remarquable, c'est-à-dire qu'il y a, il y a la présence corporelle de Bouvet, il y a, je dirais, le corps et la tête, mais là, puisqu'il arrive à donner le désarroi de son personnage malgré sa présence corporelle très, très présente. Et là, dans le théâtre qu'il joue, il y a comme un mystère, comme une espèce d'aura du geste, une précision, de l'automatisme, en fait.
Mais ça, c'était la recherche du théâtre de Philippe Chemin, qui est un théâtre avec des gestes assez réduits, et assez, justement, très précis et très... très lisible à distance, voilà. Ouais. Et on voit l'acteur, enfin ou le comédien Jean-Christophe Bouvet à l'œuvre, c'est-à-dire dans son travail d'acteur pour lequel il a été payé, comme dans la fiction du film.
Mm-hmm. C'est drôle parce qu'en fait il y a un côté poupée gigogne dans le film.
Oui, il y a des renvois. Et il y a des renvois à la réalité, à la réalité qui a précédé le film et qui était en même temps contemporaine, parce que j'ai filmé les répétitions au moment où avaient lieu les répétitions. C'est pour ça que les dialogues qui sont échangés en cours de répétition ne sont pas du tout des dialogues que j'ai écrits, mais les dialogues réels de cette répétition ce jour-là.
Donc et ça devient un documentaire
C'est un documentaire sur une répétition, et après il y a le documentaire sur la représentation avec les applaudissements du public et les saluts.
C'est assez curieux parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent comme ça, non ?